Homo urbanicus.
Éric Deterre, bonjour. La ville des Saulemur. Avec ce titre que nous avons donné à notre édition de ce jour, je vous entends vous gratter la tête. Est-ce qu'on va parler aujourd'hui d'un ménage de printemps? Un ménage où les citadins prendraient leurs plumeaux et leurs aspirateurs et nettoieraient les rues des villes? Eh bien, pas du tout. Dans cette émission diptyque, nous allons aborder deux thèmes. Nous commencerons ainsi par voir comment les sols ont été et continuent d'être maltraités par notre civilisation post-industrielle. Au point d'être pollué et rendu stérile. Pour cela, nous avons rencontré Patrick Henry, auteur d'un ouvrage intitulé « Des tracés aux traces ». L'auteur, urbaniste, architecte et enseignant, examine la façon dont les villes se sont construites en superstructures au-dessus du sol, donc un sol qu'elles se sont entêtées à totalement ignorer, voire à mépriser. Côté mur, pas de nettoyage prévu non plus, au contraire, diront les tenants des surfaces vierges de toute inscription. Avec notre deuxième invité, Jean-Baptiste Barra, nous verrons si, comme il le dit, la ville est une entité répressive. C'est du moins sa thèse en ce qui concerne l'art mural urbain. Il la développe dans Antigraffitisme, un ouvrage qu'il a rédigé avec Timothée Engasser. Nous l'entendrons dans la deuxième partie de cette émission. Et pour tenter de compléter ou d'infirmer cette thèse, Clotilde Gégousse, notre reporter de choc, a rencontré l'un des artistes urbains les plus connus en France. Vous entendrez son point de vue. Pascal Duterte, vous êtes notre architecte maison, de choc aussi, et vous conclurez notre émission avec votre chronique. Vous nous proposez d'examiner l'épiderme de la ville.
En effet, Eric, je vais poser la question. Sur quoi marche-t-on dans nos villes? Et vous verrez que les réponses sont diverses et variées en fonction des époques et des lieux.
Pascal, c'est en fin d'émission que nous vous retrouverons.
Homo urbanicus.
Homo urbanicus décide aujourd'hui de s'intéresser à la ville des sols aux murs. Et pour s'intéresser au sol, nous avons aujourd'hui invité Patrick Henry, architecte et urbaniste. Patrick Henry, vous êtes aussi enseignant à l'école d'architecture de Paris, Belleville. Et comme le dit de manière assez rigolote la quatrième de couverture de Des tracés aux traces pour un urbanisme des sols paru aux éditions Apogée, les sols reviennent à la surface. Ça veut dire que les sols sur lesquels on marche, les sols urbains, seraient martyrisés, seraient en danger.
Oui, tout à fait. Bonjour. Merci pour cette invitation. Oui, les sols sont en danger parce que ça fait quelques années qu'on ne s'en occupe plus vraiment. Ça fait quelques années, quelques siècles même que les sols dans la ville sont rendus invisibles, ont disparu d'une certaine façon. Ils sont toujours là, mais on les ignore. On s'en sert, mais on ne les considère pas pour ce qu'ils sont et toutes les ressources qu'ils peuvent nous proposer et tous les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter.
Alors commençons par la définition, les sols. Vous dites les sols parce qu'il n'y a pas un seul sol. Qu'est-ce que c'est que les sols?
Il n'y a pas un seul sol parce que le sol c'est forcément pluridéfinition. Ça touche à la fois la géologie, ça touche à la fois l'histoire, ça touche la philosophie aussi, ça touche la question des religions et puis plus pratiquement ça touche l'agriculture, ça touche tout ce qui aujourd'hui nous sert vient des sols. Tous les paysages que nous voyons sont des expressions des sols.
Vous dites dans votre ouvrage, les sols sont le lien entre notre passé et notre avenir. Il faudrait le considérer plus comme l'origine et le fondement, plus que comme un support de nos activités. C'est ça le problème, la surexploitation des sols?
C'est tout à fait ça. Le problème, c'est qu'on a considéré les sols. Alors, c'est ce terme de ressource avec toutes les acceptions qu'il peut avoir, qui n'a pas rendu service au sol. C'est à force de le considérer comme une ressource, on s'en est servi, mais on ne lui a pas rendu service. Et ça, c'est un vrai, véritable problème aujourd'hui qu'on mesure avec les problèmes écologiques, environnementaux qu'on a affrontés en ville en particulier.
Alors revenons à la définition du sol. Il y a une sorte d'épiderme, c'est-à-dire le sol, le Vous qualifiez ça de
La pédosphère.
La pédosphère, c'est un petit peu comme la stratosphère. La pédosphère qui serait cette fine couche, mais ça va beaucoup plus loin, le sol.
Ah ben le sol, c'est une épaisseur. Et c'est justement cette compréhension-là du sol que je propose dans mon livre, c'est de plus considérer les sols uniquement comme une surface, mais aussi comme un volume, comme une épaisseur. Et dans cette épaisseur, comme vous l'avez dit, on retrouve notre histoire. Hein, on le voit avec les fouilles archéologiques, on voit les traces de nos implantations passées, qui peuvent nous inspirer pour demain d'ailleurs. On voit effectivement les outrages qu'on a fait subir au sol, hein, les pollutions, les déformations, etc. Et puis c'est une épaisseur parce que c'est aussi là-dessus qu'on va fonder véritablement notre avenir.
Alors c'est une épaisseur aussi parce qu'il y a l'existant et ce qui se surajoute au fur et à mesure de l'activité humaine ou, avant l'arrivée de l'homme, de l'activité biologique.
Tout à fait. Alors tout ça, ça s'est passé à peu près normalement, grosso modo, jusqu'au 18e, 19e siècle, hein, pour le dire clairement. Cette fameuse ère de l'Anthropocène, qui est l'époque de l'homme, finalement, elle s'est accélérée avec le 19e siècle et la révolution industrielle qui a, pour le coup, martyrisé énormément les sols, les a véritablement attaqués et agressés. Et on est toujours sur cette histoire, on est dans la suite de cette histoire où on exploite les sols sans les considérer.
Oui, parce que ces sols-là, ils peuvent faire jusqu'à 6 à 10 mètres. On a 6 à 10 mètres d'histoire sous nos pieds en permanence, en prenant par principe qu'on est à la hauteur du sol.
Tout à fait.
Justement, on a 6 à 10 mètres d'histoire en dessous de nous et on ne s'en occupe pas. On a décidé au 18-19e siècle que le sol n'existait plus. On l'a invisibilisé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, on l'a invisibilisé d'une part dans les villes, hein, c'est un peu la conséquence de la surexploitation, les exploitations minières, les exploitations de toutes sortes, hein, pour aller chercher des nouvelles ressources, hein, pour aussi alimenter les villes qui grossissaient à l'époque. Et puis on l'a imperméabilisé, on l'a rendu invisible parce qu'on a cherché à y cacher tout ce qu'on ne voulait plus voir dans les villes. On a mis les égouts, on a mis les réseaux, on a mis les réseaux de transport dans certaines villes, comme ici à Paris, etc., etc. Mais tout ça, on l'a fait au détriment des sols. C'est-à-dire qu'on s'est considéré que les sols, on pouvait les ouvrir et y mettre à peu près tout ce qu'on voulait sans véritablement en prendre soin. Et c'est que très récemment, et encore que, c'est dans le livre, je raconte un peu cette histoire, il y a eu des alertes. Hein. Beaucoup de gens nous ont alertés sur ce sujet-là depuis déjà fort longtemps.
Bah donc, mais au 19e siècle, si on cite un certain Johann Heinrich von Thunen, il avait proposé une méthode de construction des villes économisant le foncier, parce que c'est ça dont on parle, hein, c'est l'occupation de cette ressource dont on a l'impression qu'elle est infinie, mais qui ne l'est pas du tout.
Ben, il n'y a pas de ressource infinie, hein, maintenant on le sait, je crois qu'on est vraiment dans un monde fini, hein, comme le disait Paul Valéry, on est dans un monde fini, et Van Thunen, comme d'autres, hein, tout ce courant un peu culturaliste d'une certaine façon, avait imaginé que les villes ne pouvaient pas croître comme elles étaient en train de croître à cette époque-là, et qu'il fallait avoir une économie des sols, et réfléchir les implantations humaines et les installations humaines en fonction de la nature des sols et en fonction de leur équilibre. Et c'est véritablement ce fil-là que j'essaye de retirer aujourd'hui parce qu'il peut véritablement nous servir dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement.
Alors que, donc, si on revient sur toutes ces alertes qui ont eu lieu bien, bien antérieures au XXIe siècle, on n'a pas fait attention, on a continué cette marche en avant. Or, vous le dites, la fabrique urbaine impose une forte pression sur les ressources, sol, matériaux de construction et énergie nécessaire à leur production. Tout ça vient, hein. Le sol, c'est le support. Les matériaux de construction, de toute façon, viennent du sol. Mmh. Et l'énergie nécessaire est aussi générée par le sol. Et vous dites que... on oublie que le sol contribue à l'organisation du métabolisme à toutes les échelles. On a complètement occulté le vivant que constitue le sol.
On a totalement occulté le fait que les sols étaient des sols vivants, absolument. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de redécouvrir et d'essayer de remettre en place. Le sol, on a souvent opposé le sol urbain avec le sol rural, et même il a été qualifié par les modernes, hein, dans l'entre-deux-guerres et puis au-delà, comme un peu rétrograde. Alors tout ça parce que, effectivement, les sols, c'est aussi la propriété privée. Enfin, c'est aussi cette histoire-là que je raconte dans le livre. C'est aussi la question de la propriété privée, c'est aussi ce côté un peu réactionnaire des sols qui les ont beaucoup desservis. Et ce côté ressources, eh ben, on le redécouvre aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que les sols sont des matières vivantes qui peuvent nous être utiles évidemment pour notre alimentation, à condition de faire d'une agriculture un peu plus respectueuse elle aussi des sols, parce que l'agriculture a quand même pas mal martyrisé les sols, mais aussi en ville parce qu'ils peuvent contribuer à réduire les îlots de chaleur, ils peuvent nous apporter de la fraîcheur, ils peuvent nous apporter un certain nombre de services.
Voilà, le sol urbain est un élément nourricier et on peut le considérer comme multifonction. On produit de la végétation, de l'ombrage, comme vous le disiez, on peut approvisionner les jardins, réguler le climat, filtrer la pollution et préserver la biodiversité.
Tout à fait.
Mais on a cette marche en avant de la ville. Elle a totalement occulté ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un modèle unique de croissance de ville, c'est ça ?
Il y a eu effectivement une sorte de pensée unique sur la ville. Hein. Elle s'est fabriquée au début du XXe siècle. Et puis le grand tournant, ça a quand même été la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu loger évidemment énormément de personnes. Donc on a urbanisé énormément. On a créé les fameux grands ensembles. Hein.
Donc le sol n'était pas la priorité. Là,
et le sol n'était pas la priorité. Et là encore, il était considéré comme un support, ne serait-ce que pour desservir tous ces lieux. Le grand fautif aussi, c'est l'utilisation massive de la voiture. Hein, la voiture avec ses espaces de stationnement, avec ses routes, etc. On consommait énormément de sol. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de ressources en sol et de réserves foncières sont des délaissés d'autoroutes, sont des endroits qu'on pourrait réinvestir autrement.
Vous dites dans votre ouvrage que 18% de la surface des villes... seulement 18% de la surface des villes est bâtie. Le reste, ce sont les 48%, ce sont des routes, des parkings, des infrastructures de transport. C'est énorme.
C'est énorme.
En plus, la France n'est pas bien placée du tout par rapport à l'artificialisation.
La France, c'est le mauvais élève de l'Europe, si on le dit comme ça. On consomme environ 30 000 hectares de sol par an, hein, c'est ce qui est énorme, de terres agricoles principalement. Et en plus, on méconnaît les sols, c'est-à-dire que on ne repère pas suffisamment les sols. Et les ressources que je cite dans le livre que vous venez de rappeler permettraient de rebâtir sur des espaces qui sont déjà artificialisés et qui permettraient de ne plus consommer de sol naturel.
Alors vous m'offrez une transition toute faite. Les solutions, parce que vous en abordez quelques-unes. On va passer sur l'aspect réglementaire qui fait l'objet d'un long chapitre. C'est un embrouillamini d'organisation, de superposition de structures qui depuis les années 70, il y a eu une prise de conscience dans les années 1970, qui se sont superposées et qui visaient à réduire cette emprise sur les sols. Mais c'est pas concluant.
Mais on a tout l'appareil juridique, on pourrait tout à fait légiférer, on en ajoute. En France, on a beaucoup de lois, mais il faudrait maintenant les appliquer. En fait, c'est un peu ça le sujet. Et la dernière loi, sans rentrer trop dans les détails, c'est la loi climat et résilience d'août 2021, à l'intérieur duquel il y a cet objectif de zéro artificialisation nette qui est fixé pour réduire de moitié en 2030 et totalement en 2050.
Alors qu'est-ce que c'est que cette ZAN ?
Alors cette ZAN, c'est l'idée qu'on va plus artificialiser de terres naturelles, donc ou agricole ou forestière.
Alors artificialiser, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire de supprimer la fonction vivante du sol et de l'urbaniser, de le recouvrir, de l'imperméabiliser, de le transformer.
Et l'étanchéifier.
Et c'est l'étalement urbain, c'est aussi ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire la construction non seulement de lotissements, etc., mais aussi des centres commerciaux, des centres logistiques, etc., qui consomment énormément de terres naturelles ou agricoles ou forestières.
Alors cette ZAN, rappelez-moi, c'est...
Zéro artificialisation voilà. Nette.
Tout le monde n'est pas d'accord, et notamment les maires de moyenne commune en France.
Les maires s'insurgent parce que c'est encore une fois une loi qui est imposée depuis Paris, pour le dire comme cela, ou depuis l'État, et qui considère un peu les choses de manière égale, qu'on soit à l'est de la France, au nord ou au sud. Et les élus locaux demandent, c'est justement une prise en compte des spécificités locales, et pas simplement en termes quantitatifs. Et c'est là où moi je propose des solutions, en tout cas des pistes de solutions qui sont plus méthodologiques, d'essayer de considérer les sols, de se mettre autour de la table, de discuter, de repérer véritablement les endroits où on doit construire sans continuer à artificialiser. C'est possible, mais il faut maintenant se mettre au boulot. Quoi.
Alors vous, si je résume les solutions que vous esquissez, c'est prise en compte des caractéristiques des sols. Au lieu d'avoir un modèle global de prise en compte des sols, la renaturation, là va y revenir. Et la conservation et le recyclage. Il nous reste 4 petites minutes pour évoquer ça. Commençons. Alors, la prise en compte de la caractéristique des sols, on l'a évoqué. Renaturation, qu'est-ce que c'est?
La renaturation, c'est retrouver un état de nature, finalement, pour le dire simplement. C'est-à-dire retrouver ce caractère vivant des sols qu'on peut retrouver avec, en amenant des matières organiques, en retravaillant les sols. C'est une question de temps. C'est clair que les sols nous invitent aussi à peut-être aller un peu moins vite, mais travailler vraiment sur la durée pour urbaniser au mieux nos territoires.
Conservation et recyclage, qu'est-ce que ça recouvre ?
Recyclage, ça revient sur la reconnaissance du foncier. On ne connaît pas suffisamment le foncier disponible. Et parmi ce foncier, il y a tout ce qu'on appelle des friches industrielles ou autres. Hein. Il n'y a pas que des friches industrielles qu'on pourrait réutiliser, qu'on pourrait réemployer, parce que c'est des terrains qui sont déjà pour partie artificialisés.
2700 en Ile-de-France.
Et oui, 2700 hectares en Ile-de-France, c'est énorme. Et donc c'est un vivier incroyable dans lequel on peut pas simplement construire, parce que c'est aussi des ressources de biodiversité, mais ça peut être aussi des endroits où on peut considérer les sols véritablement autrement.
Alors dans une émission que nous avons faite ici, on a qui traitait de l'hôpital de Reims, on a vu la manière dont on réutilisait le foncier et dont on débarrassait cette énorme emprise, je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés ça concerne, et dont on dégageait une emprise pour faire des espaces verts. Alors est-ce que c'est une des solutions ?
Assurément. Après, chaque solution est à regarder selon son contexte et selon la considération des sols. C'est un peu ce que je dis dans le livre, c'est que chaque contexte est particulier et c'est ce temps-là de réflexion et de discussion qu'il faut maintenant engager pour mettre véritablement en place un zéro artificialisation nette qui soit intelligent.
Patrick Henry, dans Des tracés aux traces pour un urbanisme des sols, donc qui est paru aux éditions Apogée, j'arrive pas à savoir si vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste.
Je suis assez optimiste parce que je pense qu'on a tous les moyens pour agir avec les sols et changer la tendance. Mais je suis un peu pessimiste parce que je vois le temps passer et pour l'instant il se passe pas grand chose et il est urgent maintenant d'agir et d'intervenir au niveau des sols.
Alors intervenir, c'est intervenir dans la pédagogie. Vous êtes enseignant à l'école de Paris Belleville. Qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves futurs architectes et futurs urbanistes ?
Que le sol n'est pas juste le petit trait sur lequel on vient poser ses constructions. C'est une épaisseur, c'est une histoire, tout ce qu'on a dit précédemment, et que c'est aussi en formant des architectes à ces questions-là qu'on peut peut-être aussi faire changer les choses, c'est-à-dire de prendre plus de soin dans les implantations des nouvelles constructions ou la réutilisation, j'insiste beaucoup là-dessus, la réutilisation des infrastructures et des équipements existants.
Patrick Henry, merci.
Merci à vous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et vous écoutez Homo Urbanicus qui décide aujourd'hui de s'intéresser à la ville des sols aux murs. Concernant les murs, nous avons en ligne Jean-Baptiste Barra. Jean-Baptiste Barra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entre autres enseignant, mais surtout vous êtes pratiquant du graphe. Et avec votre complice Timothée Engasser, vous avez fait paraître aux éditions Le Passager Clandestin un livre intitulé Anti-graffitisme. J'hésitais sur le terme parce que j'avais presque envie de dire un plaidoyer pour le graffiti.
Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, le sujet, c'est plutôt la répression du graffiti, effectivement. Et après, c'est sûr que nous, en tant que graffeurs, c'est un point de vue critique qu'on a adopté justement sur ces politiques de répression.
Oui, parce que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous dites, vous parlez à propos des graffeurs, traquer, arrêter, violenter. On a l'impression que le graff est l'ennemi de la ville.
Bah, en tout cas, c'est ce que laisse à penser toutes les stratégies et les politiques de répression qui sont mises en place et développées de plus en plus par les municipalités à travers le monde, hein, j'ai envie de dire, et où effectivement il y a des systèmes de répression dans la rue et aussi sur le plan légal, pénal, qui sont de plus en plus importants. Ouais.
Alors, dans votre thèse, alors quand je parle de thèse, ce n'est pas par hasard, puisque ce livre est une sorte de condensé d'une thèse que vous avez soutenue lors de vos fins d'études, votre fin d'études, c'est ça ?
Oui, effectivement, c'est une thèse collective qu'on a faite avec Timothée, et où on s'est réparti le travail, où Timothée a plutôt travaillé sur le versant hygiéniste de la répression des graffitis, et moi plutôt sur le versant sécuritaire. Et à partir de ces deux thèses, on a essayé de faire un petit résumé et donc de sortir ce livre.
Alors, concernant la partie hygiéniste, même si ce n'est pas tout à fait votre partie, vous dites dans votre ouvrage qu'on cherche à hygiéniser la ville et que le graffiti serait considéré comme une pathologie. Vous n'y allez pas un peu fort ?
Et ben en fait, effectivement, assez rapidement, dès les années 60-70 aux États-Unis, avec le développement, on peut dire, un peu de la pratique du tag, hein, donc le fait de laisser une signature sur les murs, et aussi là, en l'occurrence, c'était sur les wagons des métros à New York. Il y a des articles, notamment du Times et d'autres journaux, qui considéraient le graffiti comme une peste. C'était vraiment le mot qui était utilisé. Et même, en fait, quand on remonte plus anciennement, même au 19e, voilà, le mot contamination, maladie est utilisé en ce qui concerne les inscriptions, quoi, pour vraiment faire un lien direct, en fait, entre voilà, une espèce de contamination de la ville, avec la notion de propre et la notion du beau, en fait. Ces deux notions sont liées assez rapidement.
Ouais. Alors, il y aurait deux choses qui seraient opposées. Il y a le graffiti qui serait considéré comme une pathologie et le blanc comme idéologie. C'est-à-dire qu'un mur blanc, ce serait un mur propre, un mur sain, un mur dans une ville sûre et contrôlée. C'est ça, c'est ça l'idée ? Allô ? Là, je crois qu'on a un tout petit problème avec votre téléphone. Jean-Baptiste Barra.
Vous m'entendez ?
Voilà, là, on vous a récupéré. Est-ce que vous avez entendu ma question ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, oui, là, donc, pour vous répondre, la question du blanc, en fait, est assez vite liée à une notion d'aseptisation, de propreté. Et du coup, elle se propage, elle part, en fait, des hôpitaux, hein, tout simplement, avec le développement aussi du carrelage, de l'assainisation, des choses comme ça. Et en fait, elle se propage dans la ville comme l'idée que tout ce qui correspond, en fait, au sombre, à la noirceur, renvoie à la crasse, à la saleté, au manque de lumière, d'air pur. Et donc, voilà, ensuite se développe jusque sur les murs, en fait, où la couleur blanche devient synonyme de à la fois de contrôle et de propreté.
Jean-Baptiste Barra, mais de quoi parle-t-on ? On parle du graffiti, on parle de la fresque, on parle de la simple signature qui dit bah, « je suis passé par là », avec des visées plus ou moins égocentriques ou narcissiques, ou de l'œuvre d'art ?
En fait, nous, on a évité de procéder à un classement, et on s'est placé du point de vue justement de la répression. Et en fait, notre objet d'étude, c'était ce qui était la cible de la répression. Et en France, par exemple, c'est le terme inscription qui est condamné par la loi pénale, et en fait qui recouvre toutes les formes d'inscription, de tracés, de pochoirs, voire même de collages, d'autocollants, de choses comme ça. Et en fait, c'est pas, elles sont pas appréciées d'un point de vue esthétique, mais c'est plutôt la question de l'autorisation qui prime. Et en fait, c'est tout ce qui n'est pas autorisé par une autorité supérieure, qu'elle soit municipale ou celle du propriétaire, est considéré comme étant un acte illégal et une dégradation.
Alors, résultat, donc, oui, pardon.
Enfin, et voilà. Et donc, du coup, on ne s'est pas aventuré à classer les pratiques au risque, justement, de devoir les hiérarchiser, d'en considérer des bonnes ou des mauvaises. Et on est resté sur cette approche-là, quoi.
Alors, résultat, vous arrivez à une thèse un peu globalisante où vous comparez la tradition fasciste du Chili, de la Colombie et de l'Irak à la répression du TAG. C'est pas un petit peu une stratégie du bulldozer, mais peut-être c'est la volonté est-elle justement de provoquer le lecteur.
Je ne sais pas si notre volonté elle était de provoquer. En tout cas, c'est tout à fait possible et je le comprends que ça puisse provoquer à la réception. Nous, notre idée, c'était d'assumer un positionnement, en tout cas dans notre recherche, un positionnement déjà en tant que graffeur, et ensuite, c'est sûr qu'il y a on a un positionnement politique dans notre rapport à la ville qui serait un positionnement anarchiste, disons. Mais en tout cas, dans la lecture qu'on a eue des choses, on a essayé de mettre en lumière un ensemble de mécaniques, de dispositifs qui constituent, selon nous, un système. Et voilà, donc je disais, il y a une uniformisation de l'approche répressive du graffiti. Et en fait, quand on remonte un peu à l'histoire et aux origines de cette répression du graffiti, on remarque qu'elle vient effectivement de théories sécuritaires, contre-insurrectionnelles, ainsi que d'idéologie hygiéniste, et que encore aujourd'hui, en fait, ces idéologies-là, elles se propagent jusque dans les services municipaux et dans les entreprises, par exemple, qui proposent de nettoyer des graffitis.
Alors, pour revenir à l'histoire, vous citez les insurrections de 1871 et leur répression des insurrections dans lesquelles le graffiti, plus du moins l'inscription, a joué un rôle politique considérable.
Ouais, tout à fait. Tout à fait, il y avait énormément de graffitis à l'époque, mais qui n'étaient évidemment pas faits avec les mêmes outils qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas des sprays de peinture, mais il y avait des techniques au charbon, avec des craies, avec aussi des espèces de formes de pigments naturels. Et beaucoup de messages étaient marqués à la fois contre le pouvoir, en soutien à la commune, pour dénoncer les répressions sanglantes. Mais de manière générale, il y avait aussi une pratique de l'inscription. Vous disiez tout à l'heure les signatures un peu égocentriques. En fait, depuis très longtemps, il y a des traditions des pratiques d'inscription où aussi il s'agissait que de simples noms, de messages d'amour, de dessins. Et ces messages-là, on peut encore les retrouver aujourd'hui sur des bâtiments qui sont justement classés au patrimoine, ou jusque dans des parcs naturels, où par exemple dans les Pyrénées, il y a des bergers qui écrivaient leur nom sur des cailloux pour montrer qu'ils étaient passés par là, quoi. Donc on nous fait aussi la répression tend à montrer qu'il y a quelque chose de nouveau, comme si c'était un phénomène du graffiti, quelque chose de très contemporain, alors qu'en fait, quand on observe un peu historiquement, on peut observer que ça remonte à assez longtemps.
Alors, il y a quelque chose j'ai trouvé assez rigolo. Vous parlez de la censure organisée lors de la préparation du Tour de France. Racontez-nous un petit peu ça, parce que j'avoue que c'est une chose que je ne connaissais pas. C'est assez intéressant.
Oui, en fait, en amont du coup des Tours de France, des retransmissions télévisées, puisque c'est une des épreuves sportives, si c'est pas la plus retransmise à la télé du monde, enfin c'est une des plus retransmises. Donc il y a des enjeux évidemment à contrôler un peu ce qui peut apparaître, et aussi il y a des enjeux pour certaines personnes de faire apparaître des messages, notamment des messages politiques, mais pas que, il y a aussi des messages injurieux, des choses comme ça. Donc en fait, il y a une compagnie, une entreprise publicitaire qui est à la fois sponsor du Tour de France et qui gère un peu la diffusion, qui envoie en fait des personnes, donc qui s'appellent des embouches, qui sont en embuscade, pour passer sur le parcours et recouvrir en fait ou transformer les inscriptions qui pourraient être déposées au sol ou sur les murs en des choses, disons, plus conventionnel, quoi. Donc,
de la publicité, par exemple.
Des choses comme ça.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Baraski, dans votre thèse, que je continue à qualifier d'assez globalisante, mais vous êtes plutôt d'accord avec ça, vous dites non aux fresques commandées par les communes.
Oui, tout à fait. Dans la distinction que nous on a faite, la seule distinction qu'on fait dans les inscriptions, donc il y a celles qui sont réprimées et celles qui, au contraire, sont valorisées. C'est ce qu'on a appelé le street art institutionnel, donc c'est qui est en plein développement aussi.
Et ça, c'est pas bien non plus. Par exemple, Paris 13, l'initiative de la mairie du 13e de faire tout un parcours de street art, ça trouve pas grâce à vos yeux non plus.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a rien de personnel, j'allais dire, contre la pratique du street art, ni même contre les street artistes. C'est juste qu'on voulait montrer, en fait, que souvent, ce qu'il y a dans l'idée des commanditaires, en fait, c'est d'occuper de l'espace visuel. Et en fait, même les fresques, elles servent à recouvrir des graffitis, maintenant, la plupart du temps. Donc, c'est pas un simple amour des municipalités pour le graffiti, qu'elle réprimait d'ailleurs hier, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une volonté de transformer la répression et qu'il ne soit plus justement une répression frontale, un effacement, mais aussi une monopolisation des murs en valorisant des pratiques artistiques. C'est pareil, ces discours-là, ils ne sont pas assumés directement par les municipalités, en tout cas de manière publique, mais nous, pendant notre étude et les entretiens qu'on a fait, il y avait clairement justement ce discours-là qui ressortait. Donc c'est ça qu'on veut montrer, que le street art institutionnel, c'est pas uniquement la promotion d'une forme d'art, c'est aussi la nouvelle forme de répression des inscriptions non autorisées.
Jean-Baptiste Barra, avec Timothée Engasser, votre co-auteur, vous continuez à être des praticiens du graphe, hein?
Oui, tout à fait. Nous, on a
à Toulouse, hein.
Ça, à Toulouse ailleurs, hein, c'est là où on a l'occasion d'aller, et c'est ça qui nous a amené à poursuivre en fait ce sujet d'étude, à nous intéresser à ça, parce qu'en fait on a eu l'occasion au cours de notre pratique justement d'expérimenter la répression, que ce soit par l'effacement de nos graffitis ou par des nombreuses altercations avec des passants ou avec la police, ou d'observer la multiplication des caméras de vidéosurveillance, des choses comme ça. Et c'est en fait avec cette expérience qu'on s'est intéressé vraiment en profondeur à cette question et qu'on a décidé de le traiter à travers une thèse.
En conclusion, on pourrait dire que votre volonté à tous les deux, vous Jean-Baptiste Barret et Timothée Engasser, c'est d'une liberté absolue d'expression sous toute forme, partout et tout le temps, c'est ça?
En tout cas, nous, notre volonté, et ce qu'on cherche à défendre dans le livre, et on invite à porter un regard critique sur ce qui se passe dans l'espace public, et notamment sur les questions d'esthétique, d'effacement, parce qu'en fait, la question de l'effacement des graffitis, qui est un acte anodin, je le rappelle, le graffiti considéré souvent à tort comme une dégradation, mais en fait, qui n'a... La simple dégradation, c'est celle d'une espèce d'autorité symbolique, encore une fois, puisque matériellement, il n'y a aucune atteinte qui est jamais portée à un support. Il ne s'agit que de peinture. Mais la répression des graffitis, en fait, elle montre qu'il y a des formes de plus en plus insidieuses d'exclusion, de répression, et qui ne concernent pas du tout que les graffitis, qui concernent aussi toutes les occupations considérées comme marginales, de l'espace public et qui sont, à notre sens, en tout cas en développement, et qui prennent des formes, c'est ça, de plus en plus insidieuses avec l'art, les choses comme ça. Je pense notamment à la question des squats, à la question des personnes sans abri, et nous, ce qu'on veut, c'est un peu aiguiser un peu le regard sur toutes ces questions-là. Et inviter les personnes qui ne seraient que simples passants à considérer un peu ces questions-là.
Jean-Baptiste Barra, rappelons qu'avec Timothée Engasser, vous avez publié Anti-graffitisme aux passagers clandestins. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et aujourd'hui, votre émission urbain, sur l'urbain et l'architecture s'intéresse au sol et aux murs de la ville. En complément ou en contrepoint à l'échange avec Jean-Baptiste Barra qui nous a expliqué que le graffiti était victime du tout répressif, Clotilde Jégousse, vous êtes allée enquêter du côté d'un autre praticien de l'art de rue.
Oui, Eric. Et cette idée selon laquelle les traces, les inscriptions laissées dans l'espace urbain, qu'il s'agisse de tags, de pochoirs ou même d'autocollants, sont forcément une forme de contestation qu'on voudrait bâillonner, réprimer, ne fait pas l'unanimité parmi les initiés. Je parle bien sûr des street artistes.
On a toujours tout un tas de poncifs qui circulent sur le street art c'est contestataire, le street art c'est ceci, le street art c'est cela, le street art c'est dans la rue. Moi je suis un artiste, donc je peins pas seulement que dans la rue, si je peins dans la rue c'est pour m'adresser directement au public, à un public plus large, et peut-être aussi pour le faire autrement que par la voie de la publicité ou d'une commande commerciale ou des galeries.
Si je peins dans la rue, c'est pour m'adresser directement au public. Cette approche un peu différente, c'est celle d'un artiste que nous avons rencontré. Mais Eric, je vois que vous vous interrogez sur son identité, je laisse donc se présenter.
Je m'appelle Christian Guémy, je suis plus connu sous le nom de C215, je suis artiste peintre et pochoiriste, plus connu pour ses portraits dans la rue, dans des musées, dans des galeries. Voilà, et j'ai 49 ans.
En mars dernier, moins d'un mois après le début de la guerre, vous partez en Ukraine. Racontez-nous cette initiative.
Alors c'est une proposition que j'ai faite à l'ambassade d'Ukraine au pied de la fresque que j'avais réalisée au tout début du conflit pour inciter, encourager à accueillir les réfugiés ukrainiens et qui a été validée et accompagnée par l'ambassade d'Ukraine, voilà, donc par le gouvernement ukrainien. Donc c'est une initiative, oui, mais qui était quand même sous validation et sous contrôle du gouvernement ukrainien, sinon je l'aurais pas fait. On peut pas en fait soi-même... s'improviser et intervenir dans un pays en guerre, à la fois parce que c'est pas possible et aussi parce que c'est pas souhaitable pour on peut pas non plus surfer sur ces choses-là si c'est pas souhaité par le pays que vous souhaitez couvrir. Il s'agissait de témoigner en temps réel des destructions sur les bâtiments civils que fuyaient les enfants et les réfugiés ukrainiennes. Donc il s'agissait surtout de témoigner en temps réel sur les réseaux pour mon public. Et c'est vraiment que plusieurs mois après, à la demande donc de Yael Braun-Pivet, que ça a pu devenir un livre aux éditions Critères Guerre en Ukraine et une exposition à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui a circulé déjà en mairie du 13e, en mairie de Paris-Centre.
Pourquoi c'était important pour vous d'aller sur place ?
Je fais des œuvres qui peuvent parfois désigner un contexte par leur emplacement, que c'est un art contextuel et que je pouvais pas faire mieux pour parler de la raison pour laquelle les enfants ukrainiens ont dû quitter le pays que de peindre des portraits d'enfants dans des bâtiments qui ont été bombardés. Voilà, si je voulais désigner cette chose-là, il fallait que j'aille le faire sur place.
Sur place, ces 215 peint des visages jaunes et bleus, des visages qui vous regardent droit dans les yeux. Sur un des rares murs encore debout, sur un gravat dans les décombres, sur un abri de bus, il dépose un pochoir représentant une vieille femme, un couple enlacé, un enfant, qui prend parfois les traits de l'un des siens. Autant de vies qui se sont invitées récemment dans la salle des fêtes de l'hôtel de Lassé, la résidence de la présidente de l'Assemblée nationale, le temps d'une exposition intitulée « Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine ». Des photos des œuvres de C215 y étaient montrées, et pour l'artiste, c'est un engagement important.
Moi j'ai été sensible à l'Ukraine parce que déjà il y avait un afflux massif de réfugiés ukrainiens et que je savais ce qui s'était déjà passé en Syrie avec les troupes de Poutine, qu'il y avait des millions de morts et de déplacés, qu'on a très mal accueilli les réfugiés syriens. Je me suis rendu dans les camps de réfugiés syriens de la frontière syrienne au Liban à deux reprises, donc je sais qu'ils fuyaient déjà les Russes. Je suis intervenu pour d'autres situations de guerre civile larvée en Haïti, je suis intervenu aussi en Palestine, donc je suis sensible à d'autres sujets, mais j'interviens pas surtout parce que déjà j'en fais pas, c'est pas une sorte de posture où je devrais chaque matin me trouver une guerre à focaliser, pour laquelle je devrais focaliser. L'engagement, c'est la liberté.
En Haïti, l'artiste a immortalisé en bleu, rouge, orange des visages d'inconnus en pleine rue. Un travail destiné à attirer l'attention sur le sort des populations locales, une manière aussi d'égayer, même furtivement, le quotidien des passants. Ce voyage, comment vous l'avez organisé ? Vous avez été accompagné par l'État français ?
Il n'y a eu qu'au deuxième voyage où j'ai été quand même accueilli par l'ambassade de France en Ukraine, qui m'a permis d'y réaliser une liberté guidant le peuple pour symboliser le retour de la France en Ukraine et le soutien de la France en Ukraine, mais dans le premier voyage, rien du tout. D'ailleurs, depuis, j'ai pas eu véritablement de retour, ni du ministère de la Culture, ni rien du tout. L'État français s'est pas vraiment intéressé à mon initiative. Il y a la présidence de l'Assemblée nationale qui, elle, l'a remarqué et qui m'a proposé une exposition. C'est pour ça que j'en ai fait une exposition, parce que c'était pas un projet au départ.
Ça paraît surprenant, un street artiste à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant qu'artiste, le fait que votre travail soit pas récupéré, mais reconnu par les institutions?
La vraie question, c'est de se poser, est-ce que c'est moi qui récupère les institutions ou est-ce que c'est les institutions qui me récupèrent? Il me semble que l'art urbain, c'est un art qui est davantage, en tout cas, non pas un art décoratif, mais un art qui s'exerce autour des idées, de certaines revendications, de certaines propositions, des idéaux qui s'expriment dans les œuvres. Et il me semble tout à fait correct et cohérent, finalement, lorsqu'on porte des idées et des revendications, d'aller les porter au sein des institutions. C'est-à-dire que ce qui me semble incohérent, c'est de retrouver un artiste qui a été peindre en Palestine, en Chine, dans des bidonvilles ou en Ukraine, dans des galeries de luxe, à chercher à vendre ses tableaux extrêmement chers, ou à travailler avec la mode, ou à voir des actrices qui peuvent prêcher des théories gauchistes et poser le lendemain pour Vuitton. Ça, c'est incohérent, ça me choque. Mais de voir qu'un street artiste qui est porteur d'idées et de valeurs et d'idéaux aille porter ses idées dans une exposition à l'Assemblée nationale en s'adressant directement à la fois à tous les Français, mais aussi aux députés, donc exercer une influence, moi ça me semble extrêmement cohérent, surtout que c'est pas mercantile.
Quel regard vous avez sur des artistes comme Banksy, qui portent des revendications anticapitalistes, anti-système, et dont les œuvres sont vendues plusieurs millions d'euros?
C'est toute l'ironie, la mise en abîme très anglaise du système. À la fois on le dénonce, mais à la fois par une sorte de cynisme, on l'alimente. C'est pas mon fait. Moi, je suis pas trop ironique ou cynique, je suis plutôt tragique, c'est la vérité, solennel et tragique. J'essaie de faire les choses dans un certain axe, mais je pense par exemple à l'Ukraine, l'intervention de Banksy, elle était décisive et hyper importante, parce que c'est quand même une certaine forme de contre-culture. Si Banksy avait dit tout à coup, autre chose, et si c'était aligné autrement sur l'Ukraine, peut-être qu'on en aurait souffert. Par le timbre qu'il a laissé émettre par la poste ukrainienne, qui va se transformer en banque, il va y avoir des millions qui vont être levés. Et ça, c'est sa capacité à lui. C'est-à-dire que Banksy, c'est la banque, il parle d'argent, il en rit, il s'en amuse, mais aussi il en génère. Et quand il s'engage dans des causes caritatives comme celle des réfugiés, ou des boat people de la Méditerranée, quand il s'engage en Ukraine, il y a des conséquences importantes. Je comprends pas toujours. Je trouve qu'il y a un peu un double discours. Mais au final, il a beaucoup plus d'incidence sur les choses que je peux en avoir moi-même, notamment par ses actions caritatives ou par son impact médiatique.
Est-ce qu'un tag, c'est forcément politique ?
Non, pas nécessairement. Même si je suis pas celui qui est le plus à même d'en parler, puisque je ne tague pas et je n'ai jamais tagué. Je pense qu'il peut y avoir un geste calligraphique pour certains. Je pense qu'il peut y avoir un geste narcissique aussi. Il y a aussi des graffitis comme « Je t'aime, Camille »,« Libérer un tel »,« CGT vaincra »,« Tous foutaient la merde le 7 mars enfin, ». Vous voyez, une inscription inopinée dans l'espace public n'est pas un tag nécessairement. Graver un cœur avec deux lettres sur un arbre, c'est un graffiti. Il y a une forme de poésie, il n'y a pas nécessairement une revendication, sinon d'inscrire dans l'arbre une émotion.
Est-ce qu'il n'y a pas deux types d'artistes urbains aujourd'hui ? Ceux qui sont reconnus et exposés à l'Assemblée comme vous, et ceux qui ne le sont pas, et qui doivent faire leur tag sous le manteau ?
Il y a tout un tas d'artistes urbains, il y en a qui ont peut-être leur place à l'Assemblée nationale, d'autres qui ne le souhaiteraient pas. On n'a pas tous les mêmes choses à revendiquer. On a, d'ailleurs, tous les artistes urbains n'ont pas une revendication précise sur un sujet précis. Un tagueur, il souhaiterait pas nécessairement d'exposer à l'Assemblée, peut-être qu'il aura envie d'y taguer. Tout ça, ça peut pas être mis au même plan. On peut pas. Non pas que les choses soient mieux d'un côté ou de l'autre, qu'il y ait une hiérarchie. Mais chaque artiste a son projet, et selon le projet de chaque artiste, il y a des trajectoires qui sont cohérentes ou pas. On peut pas ni me mettre dans le même compartiment qu'un autre artiste urbain, ni même mettre l'art urbain dans le compartiment du tag. Tout ça, c'est des choses très différentes qui peuvent pas se comparer. Assimiler et mettre dans le même sac vandalisme, art urbain, action artistique, répression, institution, c'est peut-être un panier trop large dans lequel les choses elles ont peut-être pas à cohabiter. Le fait qu'en France il soit interdit de dégrader la propriété d'autrui, Moi, à titre personnel, ça me convient.
Que ce soit en Ukraine, sur des gravats, ou en France, sur des boîtes aux lettres, vous travaillez sur des supports exposés aux intempéries, ce qui rend vos œuvres éphémères. C'est voulu ?
C'est important pour moi, bien sûr, de réaliser un travail le plus éphémère possible dans la rue. C'est même le principe, parce que sinon, on est dans une accumulation qui conduit à une forme de saturation. Et je trouve que la beauté des choses aussi, dans cette forme d'art, c'est que ce sont des œuvres qui peuvent disparaître, ou qui peuvent être dégradées, qui peuvent être détruites, fortuitement ou non, et que ça participe à la poésie de la chose. On n'est pas dans un art soft qui finalement ne fait que passer, comme celui qui a réalisé l'œuvre. On n'est pas à vouloir immortaliser, graver dans la pierre. Voilà, il n'y a rien de définitif dans l'art urbain, c'est ça qui est chouette, c'est ça qui le rend sympathique. Le jour où j'ai découvert le pochoir, j'ai compris que c'était avec cet outil que je pourrais parvenir à l'esthétique et au process dont j'aurais voulu disposer pour parvenir à l'art dont je rêvais.
Avant de peindre, comment vous choisissez votre support, votre endroit ?
Si je savais vraiment vous l'expliquer, je pense que je cesserais de le faire. C'est-à-dire que ça reste quand même une quête et quelque chose d'intuitif. Peut-être qu'on peut encore parler d'inspiration. En réalité, un artiste, c'est pas une technique. C'est-à-dire que pour moi, la technique, elle est aussi importante que quelqu'un qui va étudier la manière dont il fait tourner ses spaghettis quand il mange des spaghettis. C'est-à-dire qu'on n'y réfléchit pas. Ma technique, elle est acquise, j'y travaille, mais c'est pas mon objet. Je suis pas un peintre de la technique, je suis un peintre du projet, projectuel. J'essaie de défendre des idées. Et c'est pour ça que j'ai pu exposer à l'Assemblée ou aux Invalides. J'essaie de rester avant tout une forme de concept ou des idées ou des valeurs ou un propos à défendre. Mais la technique, c'est jamais le sujet. Au moment où je peins, je suis extrêmement concentré. Et même lorsque je vais dans des situations un peu tendues, je suis toujours extrêmement concentré. Mais après, l'œuvre passe avant toute chose par une sorte de moment un peu cathartique où on construit une image et on y met plus de choses qu'on ne sait l'exprimer autrement.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Pascal, pour une fois, nous n'observerons pas la ville en levant les yeux, nous n'aurons pas la tête en l'air, nous allons plutôt regarder nos pieds, le sol que nous foulons. Avec une certaine confiance, ce sol fait partie aussi de notre expérience urbaine.
Oui, la perception de la ville par la plante des pieds, c'est excitant, non ? On l'a vu avec Patrick Henry, notre premier invité, le traitement du sol urbain accompagne nécessairement l'évolution et le développement des cités à travers les siècles, avec des fortunes plus ou moins heureuses. La chaussée des agglomérations n'était pas toujours à la hauteur du faste que les immeubles et les carrosses voulaient afficher. On n'a pas touché longtemps en souliers vernis dans la boue et les excréments. Qu'en est-il donc de l'histoire du sol urbain ? Les citadins de la Rome antique étaient-ils mieux lotis que les habitants du Paris médiéval ? Bien sûr, le pavage des chaussées, la création des trottoirs ont représenté un acte de civilisation. Ils ont signifié la richesse d'un quartier, le rang de ceux qui y vivent et surtout une œuvre de salubrité publique. Je me souviens de mes vacances dans l'Espagne des années 1960, sur la Costa del Sol, où nous allions l'été car ce n'était pas cher. Il y avait cette station balnéaire toute pimpante, une sorte de Copacabana en miniature, avec des grands immeubles blancs et un front de mer aménagé en grande promenade d'allée où le soir on mangeait des churros. Eh bien, une fois passé ce décor, les façades à l'arrière n'étaient pas enduites et les rues étaient restées en terre battue. Il y a toujours eu dans les villes des quartiers qui bénéficiaient de la modernisation avant les autres. Arrivée de l'eau courante, du gaz, puis de l'électricité, raccordement aux égouts, éclairage public et pavage des rues.
Alors revenons un peu en arrière, lors de l'Antiquité romaine, quel type de sol foulait-on ?
Eh bien, il suffit de se rendre à Pompéi, par exemple, en 79, l'année de l'éruption du Vésuve. La ville est construite sur un plan en damier avec des îlots délimités par des rues. Ces rues sont constituées par des chaussées dédiées aux véhicules et des trottoirs pour les piétons. Jusqu'ici, tout est normal. Mais ces trottoirs, dont l'entretien est assuré par les riverains et qui sont donc en matériaux variés, du tuf ou de la terre battue, ont la particularité d'être assez hauts, environ 60 cm. La chaussée, elle, est constituée de grosses dalles de basalte ou de trachyte, encore une roche d'origine volcanique. Ces dalles sont de forme polygonale et assemblées en opus cyclopéen. Pour passer d'un trottoir à l'autre, il y avait des pierres arrondies disposées sur la chaussée à certains endroits, espacées pour laisser passer les roues des charrettes. Cela permettait de ne pas se salir ni de se mouiller les pieds quand les rues étaient inondées.
Franchissons quelques centaines de kilomètres et quelques siècles aussi pour nous rendre dans la Venise du Moyen-Âge.
Comme tout le monde sait, Venise est construite sur l'eau, ou plutôt sur des matériaux alluvionnaires constituant des couches de sable mélangées à de l'argile compressée. C'est-à-dire un sol plutôt humide et pas très stable, peu recommandé pour édifier des basiliques et de somptueux palais. Donc on a fortifié ce sol mou par des milliers de pieux en bois enfoncés parfois jusqu'à 8 mètres de profondeur. Sur ces pieux solidement reliés, les Vénitiens ont posé des socles en madriers de chêne et de mélèzes attachés. Puis une couche de pierre d'Istrie pour imperméabiliser la plateforme. Les maisons sont construites autour de petites places dallées, les campi, au milieu desquels se trouve le puits, en fait une citerne où l'on recueille les eaux de pluie.
Alors maintenant, Pascal, vous souhaitez nous emmener en Inde, dans l'Uttar Pradesh, au sud de New Delhi.
Oui, à Fatehpur Sikri, plus précisément, une ville située non loin du fameux Taj Mahal, à Agra. C'est une cité érigée de toutes pièces au XVIe siècle par l'empereur Apkar, qui représente un sommet de l'architecture moghole. Elle se compose de trois ensembles d'édifices, palais, pavillons et temples, autour de grandes places et jardins selon une géométrie orthogonale stricte. La beauté du site tient dans l'homogénéité des constructions. En effet, les façades et les sols des esplanades sont réalisés dans un seul matériau, le grès rouge taillé en blocs de pierre ou en grandes dalles.
Et dans une ville comme Paris, à quel moment est-ce qu'on a commencé à paver les rues ?
Si l'on accepte la décision de Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle de paver les deux rues principales constituant la croisée de Paris, il faut attendre le règne de Louis XIV pour que cela soit étendu à l'ensemble du réseau. Le premier pavage était fait de grandes dalles en grès d'environ 1 mètre carré et 15 cm d'épaisseur. Au XIXe siècle, on a utilisé aussi des pavés de bois et les pavés de grès en petits blocs cubiques, tant appréciés des manifestants, et aussi le macadam et l'asphalte. Quant au trottoir, ce fut long aussi à se généraliser. La première rue qui en a disposé serait la rue de l'Odéon en 1779, mais il fallut attendre la fin du siècle suivant pour que toute la ville en soit équipée. De 1838 à 1848, la longueur de trottoir construite passait de 16 à 260 km pour arriver à 1000 à la fin du Second Empire.
Alors si on devait faire l'inventaire des différents sols possibles en ville, quels seraient-ils ?
Eh bien, nous disposons maintenant d'une grande diversité de matériaux que l'on pourrait classer selon leur imperméabilité. Il y a bien sûr les surfaces minérales, les dallages de pierre dont on a parlé, mais auxquels s'ajoutent les revêtements plus souples comme l'enrobé, utilisé de nos jours pour les routes, c'est-à-dire un mélange de granulats et de bitume, mais aussi ce qu'on appelle les pavés autobloquants à base de ciment que l'on a beaucoup utilisé dans les rues piétonnes. Et dans certaines régions, les trottoirs sont traités en calade avec des galets serrés les uns aux autres. Parfois aussi des sols en briques. Et dans les parcs, il y a plus de souplesse que dans les rues. Le sol est en terre battue ou en terre compactée avec des gravillons. On peut trouver des sols en béton balayé, en gravier, des pas japonais, des terrasses en platelage de bois, des sols élastiques pour les aires de jeux d'enfants, sans parler des pelouses que l'on a maintenant le droit de piétiner lorsqu'elles ne se reposent pas.
Fin de cette nouvelle édition d'Homo Urbanicus. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui au sol et aux murs de nos villes. Merci donc à nos invités. Par ordre d'apparition, vous avez entendu l'architecte urbaniste et enseignant Patrick Henry qui nous a parlé des sols de nos villes et d'ailleurs. Pour en savoir plus, il vient de publier un ouvrage aux éditions Apogée. Il s'appelle « Des tracés aux traces pour un urbanisme des sols ». Nous avons ensuite joint Jean-Baptiste Barra au téléphone avec Timothée Engasser. Il est l'auteur de Antigraphitisme aux éditions Le Passager Clandestin. Ils y développent tous deux la thèse de la répression visuelle, empêchant le graffiti de s'implanter dans une ville qu'ils jugent trop contrôlée. Nous avons visité enfin C215 chez lui, en faisant suite à l'exposition Slava Ukraini, lors de laquelle il a exposé ses pochoirs déposés dans les ruines des villes ukrainiennes dévastées par la guerre. Alors, petite précision, on pourrait arguer que les propos de C215 viennent d'un artiste installé qui a une cote dans les galeries et qui peut se permettre de faire des actions désintéressées à peu de frais. Mais son propos n'en reste pas moins intéressant car il défend une autre vision de l'art de rue, un art qui s'exerce, comme il l'a dit lui-même, dans le respect de la propriété privée. Alors entre les auteurs d'antigraffitisme et C215, il y a apparemment deux visions différentes de l'art de rue. Entre tag, pochoir et graffiti, il y a une nuance, il y a un monde entre l'exercice dans un cadre quasi légal. Il y a une différence avec les artistes de rue en salon et les graffeurs clandestins qui veulent exercer leur art sans limite, même pas celle de la propriété individuelle. Notre but ici, ce n'est pas de défendre un point de vue purement patrimonial et figé de la cité, mais de proposer une vision de la ville dans laquelle les tenants du beau au sens classique pourraient coexister avec les fervents défenseurs de la liberté d'expression murale. Et ça, grâce aux diverses contributions de nos invités au reportage de Clotilde Jégousse. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Merci donc à ma belle équipe qui a rendu possible l'édition de ce jour. Pascal Duterte était à la chronique, Pierre Demkoff à la programmation musicale et Clotilde Jégousse, notre reporter, qui est allé voir C215. Tout aussi indispensable, nos techniciennes et techniciens de ce jour, Kumba Falquast. Il y avait Pierre Leborgne et Enrico Mastro Giovanni à la technique. Petit rappel, nous sommes réécoutables sur le site de la radio aligrefm.org. Dans moins d'une semaine, vous y retrouverez l'émission de ce jour ainsi que des compléments d'information. On est également joignable via notre adresse mail homourbanicus@aligrefm.org. homourbanicus@aligrefm.org. On se retrouvera très bientôt sur les antennes d'Aligrefm. D'ici là, soyez urbains, soyons tous des homo urbanicus. h 56 et 50 secondes à 11h, vous retrouverez Vive le cinéma sur l'antenne d'Aligre FM 93.1 et aligrefm.org.